Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Nancy Roy, qui est de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. À l'espresso et l'espresso allongé, il sera question de dépression et alimentation. Notre collaborateur en début de deuxième demi, Jean-François Plouffe, nous amène son sujet. Il nous parle d'un jugement de JM contre l'hôpital Jean Talon. Alors tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine. On commence en chanson et la chanson s'intitule « Fille de personne 2 » de Hubert Lenoir. Bienvenue à Folie Douce.
La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie Douce.
Je suis en compagnie maintenant de Mme Nancy Roy. Bonjour, Mme Roy.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. C'est un sujet plutôt difficile, mais c'est intéressant de savoir qu'une association existe pour aider justement les familles qui ont vécu quelque chose de dramatique, en fait, dans leur vie. Pouvez-vous nous situer justement l'AFPAD? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne comme service?
C'est une association qui a été créée il y a à peu près 10 ans par 4 pères qui venaient de vivre un drame et qui trouvaient que malheureusement, dans le système, il y avait un grand manque. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont créé cette association-là, sont allés chercher des parents. Et aujourd'hui, 10 ans après, on a 600 membres actifs de l'association. Donc, c'est pas 600 personnes là, directement là, touchées par un assassinat, mais c'est des proches de personnes assassinées ou disparues.
Oui, parce que on sait que ça... Bon, évidemment, c'est un drame, puis c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Ça doit effectivement créer des traumatismes et une espèce de choc post-traumatique, j'imagine. On peut appeler ça comme ça.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'une personne, un de ses proches, est assassiné ou disparu, ces personnes-là ne sont pas préparées, ni financièrement, ni psychologiquement, à vivre ce drame-là. Donc, c'est un deuil traumatique dans le cas d'un assassinat. Dans le cas d'une disparition, on ne peut pas parler d'un deuil parce que ces personnes-là attendent toujours.
Ouais.
Et ils vivent une détresse psychologique épouvantable. Mais si on se concentre dans le cas des assassinats, ces personnes-là vivent un deuil post-traumatique qui est malheureusement peu connu, autant dans le milieu du travail, parce que, bon, quand ça arrive, ces personnes-là sont souvent appuyées par la famille. Mais ce qu'on a réalisé au fur et à mesure des années, c'est que les gens étaient isolés, stigmatisés, retournaient au travail très rapidement parce qu'ils étaient peu indemnisés.
Il y a des besoins financiers, effectivement.
Hein. Exactement. Puis là, ils retournaient au travail et le milieu de travail n'était pas préparé à les accueillir convenablement. Les gens nous disent souvent « on est mis de côté, on est isolé ». Les gens ne savent pas quoi nous dire. La maman de Clémence Beaulieu, Patrie, qui a été assassinée au Maxi, on se rappellera, nous disait souvent « les voisins rentrent quand on sort
».
Et pourtant, ces gens-là ont besoin qu'on se souvienne de leurs proches, ont besoin qu'on commémore leur mémoire. Donc, on a à l'association créé, on s'est affilié à des experts en deuil post-trauma, comme la Maison Montbourquette, qui accueille des gens en deuil, l'Institut Douglas, qui est spécialisé en post-trauma, et on s'est associé aussi à la FTQ, à un avocat, et on a dit « Parfait, on va faire un guide complet pour donner aux acteurs du milieu de travail, pour mieux les préparer, pour être bienveillants. » Avec une personne qui a subi un drame comme ça, qui n'est pas préparée, ni ses proches, ni elle-même. Et on s'est dit, bien, on va le distribuer aux ressources humaines, on va le distribuer à travers la FTQ, qui a été un de nos partenaires du début. Et je pense que ça va devenir un outil important. Et ce que ça a créé, c'est que le milieu scolaire... Christine Caretta, qui a écrit un livre dernièrement qui s'appelle « Ma sœur sauvagement assassinée », a dit « Ben moi, je suis un professeur, puis dans le milieu scolaire, il n'y a rien pour aider les professeurs qui sont souvent en détresse quand il y a un jeune qui s'est suicidé ou un collègue,
ouais.
Ou même quand il arrive un drame à l'extérieur ou à l'intérieur de l'école. » Donc, notre prochain outil qui est à concevoir, ça sera un guide de retour à l'école après un drame.
Parce que là, actuellement, le guide que vous avez, qui a été mis en place, en fait, qui a été écrit, c'est le retour au travail après un drame, justement. Parce que dans le fond, il y a un peu de deux... Il faut agir un peu des deux côtés. Les gens qui vivent ce deuil-là, ou en tout cas ce drame-là, d'avoir des personnes assassinées à leur entourage ou disparues, savent pas trop, probablement, comment en parler aux gens. Et les autres, comment en parler à cette personne-là. Donc, tout le monde a comme un malaise. Est-ce que le guide renferme... des trucs pour les deux côtés, en fait, pour les deux personnes?
Oui, c'est l'Institut Douglas est venu aider justement l'entourage pour dire comment on peut, qu'est-ce qu'on peut faire pour être bienveillant, qu'est-ce qu'on peut faire pour accueillir ces gens-là dans leur drame, comment on peut en parler. On est venu aussi, par exemple, pour nous, c'est important le niveau législatif, parce que ces personnes-là, il faut se rappeler que les parents d'enfants assassinés ou les proches ne sont pas indemnisés par l'IVAC ou très peu indemnisés. Ils ont droit à 30 séances de psychothérapie et c'est tout. Et ils se font dire après 30 séances, vous êtes guéri, merci, au revoir. Mais on sait très bien que c'est un long processus. Et nous, on se bat à l'association pour dire, c'est un minimum l'aide psychologique. Parce que sinon, on retrouve ces gens-là quelques années plus tard, beaucoup plus poqués, hypothéqués au niveau psychologique, puis ça coûte beaucoup plus cher. Fait qu'on est allé à l'Assemblée nationale à plusieurs reprises pour demander au gouvernement d'investir dans l'aide psychologique parce qu'il y avait, il y a des parents, les parents des drames familiaux y ont droit, mais pas les autres parents. Donc, ça faisait deux sortes de parents, un qui avait droit à l'aide psychologique, un qui n'avait pas droit ou qui avait le droit à une façon limitée, 30 séances, c'est très vite passé.
C'est sûr.
Et on a une mère... Isabelle Tremblay, que sa fille a été assassinée en Californie, est dans une détresse psychologique et n'y a pas droit parce qu'elle s'est arrivée en dehors du Québec. Si elle avait eu un accident de voiture, elle y aurait droit. Parce qu'il y a trois lois d'indemnisation au Québec. Il y a la loi d'assurance automobile, il y a la CSST et l'IVAC. Et si on gagne à la loterie des lois d'indemnisation, c'est la SAC. Mais l'IVAC ne répond pas même pas aux besoins de cette mère-là qui attend depuis 2 ans, même 3 ans, en CLSC pour avoir de l'aide psychologique. Fait qu'on comprend que plus on attend, pire seront ces personnes et plus grande sera la détresse. Oui. Fait que je me dis, bien, investissons dans l'aide psychologique et je pense que ces personnes-là vont réintégrer le marché du travail plus facilement, seront pas en arrêt de travail régulier ou répétitif ou récurrent. Ça va être des gens qui vont retourner dans la société beaucoup plus facilement qu'en ce moment.
Et donc, finalement, l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues a comme deux mandats. En fait, c'est d'aider les gens qui vivent ces drames-là, mais aussi de faire avancer les choses. Parce que, comme vous dites, il y a un monde là, de différence entre l'aide que les gens peuvent recevoir. Là.
Mais on ne peut pas se taire hein, quand on voit cette détresse-là jour après jour, quand on voit des parents qui se sont fait dire par la CSST, ben c'est pas des boîtes qui sont tombées sur ta fille. Moi, je ne peux pas rester muette. Mmh. Fait que moi, je me dis, ben on va aller à l'Assemblée nationale, on va aller revendiquer ces droits-là. Mais en même temps, il faut leur offrir des services. Ce qu'on leur offre, c'est dans chacune des régions au Québec, il y a des déjeuners-causeries où la première heure est faite avec des psychologues, et la deuxième heure est faite en échange, parce que ces gens-là ont besoin de créer des liens de solidarité. Ils se comprennent entre eux. Ils ne s'isolent pas. Donc, une fois par mois, dans chacune des régions, il y a des déjeuners-causeries. On a également sur notre site, au www.afpad.ca, des capsules, soit sur le deuil traumatique, sur le choc post-traumatique, sur comment gérer des médias aussi. Quand un drame comme ça arrive, il faut pouvoir gérer ça. Fait qu'on a différentes capsules, on a un coffre à outils aussi. Quand il arrive une disparition, comment on gère le disparu, les biens du disparu, comment on gère de façon psychologique aussi, parce qu'ils ne sont pas reconnus comme des victimes,
c'est ça.
Ces proches-là. Mais nous, on a un fonds d'aide où on réussit peut-être à donner de façon ponctuelle un peu d'aide, un peu de répit. Des fois, on finance aussi de l'aide psychologique à ces gens-là.
Madame Roy, comme individu, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est endeuillé par une personne assassinée à son entourage ou pire, à mon avis, quelqu'un qui est disparu parce que la personne ne peut jamais faire son deuil? Mais est-ce qu'il y a des principes de base? Il y a peut-être du cas par cas, mais comme individu, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut en parler ou comment on peut aborder ces personnes-là?
Je pense que, premièrement, il ne faut pas les fuir. Je pense qu'il faut les accueillir. Je pense qu'il faut peut-être aller consulter justement des capsules sur notre site ou de regarder le guide de retour en emploi. Il est disponible en format PDF. On peut même le mettre sur nos sites à nous.
Oui.
On peut le transférer. Je pense que ces personnes-là, il faut se rappeler qu'elles ont l'objectif ultime que tout le monde se rappelle, qu'on n'oublie pas leurs proches.
Ouais.
C'est des vies qui ont été volées. Souvent, nous, on organise des commémorations pour ces personnes-là, des plaques dans des écoles, des plaques dans des endroits où les gens vont passer, vont se rappeler. Je pense que d'en parler avec la personne, d'aller à son écoute, de l'accueillir dans son drame, je pense que ça va être le plus beau signe qu'on peut lui donner.
Parce que c'est ça, là, j'ai l'impression que les gens ont peur, mais à quelque part, c'est mieux de pas... Sinon, ça crée un malaise partout. Dans le fond, si on l'aborde de façon douce et polie, en fait, si je peux m'exprimer comme ça, c'est la personne, on est conscient que ça existe, ça s'est passé, donc c'est peut-être la meilleure méthode, comme vous dites.
Nathalie Beaulieu, la mère de Clémence, avait dit dans une entrevue, « Vous savez, on n'est pas dangereux. Venez nous voir. »
Ouais.
Et les yeux de ces gens-là brillent à nouveau quand on leur parle de leur personne disparue, on leur parle de leur personne qui a été assassinée. Je pense qu'il faut essayer d'en parler ou même d'entrée de jeu de dire « je suis un peu mal à l'aise, je suis un peu maladroit, je ne sais pas comment faire » et la personne va nous guider.
Oui, parce qu'il y a un inconfort, tu sais, on ne veut pas blesser, mais à quelque part... C'est peut-être plus blessant d'avoir un malaise et de ne pas savoir trop comment aborder. Là. Donc, c'est peut-être mieux, comme vous dites, d'y aller puis de carrément d'y aller très honnêtement et simplement, surtout.
Et il y a beaucoup d'outils qui existent à la Maison Montbourquette, qui a une ligne même sur le deuil. Nous, sur notre site, on a beaucoup, beaucoup d'outils pour aider ces personnes-là. Même s'il y avait un employeur qui était dépourvu, on est toujours disponible pour aller même les rencontrer, leur offrir des ateliers de retour au travail, leur envoyer des outils. Mais les personnes concernées directement souvent vont créer des liens de solidarité entre les autres parents, mais ont besoin de parler de ces personnes-là.
Avant de terminer, Mme Roy, ce serait intéressant de donner les coordonnées pour justement vous parler du guide qui est disponible pour les informations... J'imagine qu'il y a un horaire aussi sur toutes les informations qu'on peut demander, en fait, un horaire sur ce qui se passe comme activité et tout ça sur votre site web. Donc,
il y a un bulletin mensuel qui est distribué, qui est disponible sur notre site dans documentation.
Oui.
Il y a le guide. Nos bureaux sont à Laval et Québec, mais évidemment, on est un organisme qui couvre le Québec. Et même souvent qui couvre le Canada parce qu'il y a peu d'organismes comme le nôtre qui a été fondé par le sénateur Boisvenu. Donc, c'est peu... Il y a peu d'organismes qui offrent ces services-là. Oui. Fait que donc, le site, c'est www.afpad.ca. Sinon, il y a le Facebook qui est AFPAD Montréal où on peut avoir toute l'information, l'actualité aussi... en temps réel sur le Facebook.
C'est excellent. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Puis j'espère que les gens vont avoir eu de l'information puis ça pourra les aider justement dans leur processus, que ce soit pour aider, aborder les gens qui ont vécu ce genre de drame ou les gens qui ont vécu eux-mêmes le genre de drame, donc pour pouvoir chercher de l'aide.
Merci. Puis n'hésitez surtout pas à appeler parce que nous, on va vous référer à l'organisme utile si jamais on ne peut pas répondre à vos questionnements. Puis on offre des services autant juridiques que de référence.
Merci beaucoup, Mme Nancy Roy, donc directrice générale de l'AFPAD, AFPAD. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Les insatisfaits, nous sommes les jamais assez, nous sommes les tout de suite. Nous sommes les laissés bien trop vite, nous sommes les vacances ratées, nous sommes les amours avortés, nous sommes les choix évités, nous sommes les erreurs oubliées, nous sommes mort-nés, mort-nés. Les bébés en pleine crise, nous sommes les oiseaux dans la brise, nous sommes l'été sans le pastis, nous sommes la mer sans les abysses, nous sommes la vodka et le gin, nous sommes les voitures qui défilent, nous sommes les voix de la raison, nous sommes les enfants sans façon, nous sommes des cons, mort-nés, si tu le veux,
connaître et communiquer avec nous, visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Bonjour Gisela Malo.
Bonjour.
Alors, cette semaine, le sujet, Pierre, dépression et alimentation.
Oui, parce que le simple fait de bien s'alimenter peut aider à combattre la dépression. Peut-être qu'il y a des gens qui pourraient se passer de médicaments, mais c'est pas vrai pour tous les cas.
Non.
On n'est pas anti-médicaments. En tout cas, moi, je ne suis pas. Mais ça va être intéressant de voir toutes les choses qu'on peut manger et les choses qu'on pourrait ignorer
ouais.
de notre menu pour se sentir mieux.
Ouais.
Pour aider. Est-ce guérir pour aider, ou aider?
Oui. Oui, exactement. Oui.
Prévenir peut-être les difficultés ou
aussi,
justement
oui.
aider à mieux se porter. Hein.
Oui. Je vais commencer par un article que j'ai trouvé sur Internet. C'est sur le site Psychomédia. Alors, c'est en fait, on donne crédit de l'article à l'équipe de rédaction de Psychomédia. C'est souvent le cas sur les articles Internet. On travaille en groupe. Alors, on nous dit « L'amélioration de l'alimentation peut constituer un traitement de la dépression » a montré pour la première fois une étude publiée dans la revue BMC Medicine. Madame Phyllis Jacka de l'Université Deakin en Australie dit « Nous savons depuis un certain temps qu'il existe un lien évident entre la qualité de l'alimentation et le risque de dépression. » Elle nous dit « C'est le cas dans tous les pays, cultures et groupes d'âge, avec des régimes alimentaires sains associés à un risque réduit et des régimes malsains qui sont associés à un risque accru de dépression. » Mais cette étude, précise-t-elle, est la première qui a testé directement si la qualité de l'alimentation peut réellement traiter la dépression. Jacka et ses collègues ont mené cette étude avec 67 personnes souffrant de dépression majeure et ayant une alimentation de faible qualité. Elles ont été assignées au hasard à participer pendant 12 semaines à des séances de formation pour améliorer leur alimentation ou, dans d'autres cas, simplement à des séances de support social. L'accent était principalement mis sur l'augmentation de la consommation de 12 groupes alimentaires suivants. Il y avait les grains entiers, les légumes, les fruits, les légumineuses, les produits laitiers faibles en gras et non sucrés, les noix crues et non salées, le poisson, les viandes rouges maigres, le poulet, les œufs et l'huile d'olive, la réduction de la consommation des aliments suivants. Donc, les aliments qui sont
décommandés. Qu'il faudrait éviter.
Oui. C'est juste difficile pour ceux qui sont intolérants au lactose parce qu'ils ont dit du lait. Là,
non, mais tu peux en boire quand même.
Non, moi je suis intolérant au lactose.
Non, mais ça, c'est un aliment, mais déjà, si tu t'en fais 11, c'est
bon. Moi aussi, je suis intolérant au lactose, mais j'en bois pareil, j'achète du lait sans lactose.
OK.
Non?
Ça manque pas. Peut-être que c'est juste.
Non?
Oui.
Bon, maintenant,
Les doses à peut-être éviter.
Oui, des aliments à éviter. Tu vois, c'est toutes les bonnes choses.
Oui, oui.
Non, en fait, c'est les bonbons, les céréales raffinées, les aliments frits, le fast-food, qui est un peu la même chose, au fond, les viandes transformées, les boissons sucrées et le vin rouge ou blanc au-delà de 2 verres par jour. Et tous les autres alcools, par exemple, la bière et les spiritueux.
Mais ça dépend toujours de la grosseur du verre, parce que 2 verres par jour, c'est un grand verre.
Ça. Oui, puis ça peut couper un peu de fun, puis ça témoigne... C'est parce que c'est un dépresseur, là, de l'alcool, mais ça peut...
Le lendemain, surtout.
Oui, ça peut couper un peu de fun.
Non, mais en sachant que quand même, un minimum, ça ne nuit pas tant que ça.
Oui, bien, on
là.
Dit, tu vois, elle nous dit du vin rouge ou blanc, ou pas plus que 2 verres standard, là, de grandeur standard, par jour. Donc, on peut en boire un peu. Mais comme tu as raison, c'est beaucoup la quantité aussi. Les participants ont connu une réduction beaucoup plus importante de leurs symptômes dépressifs. Un tiers d'entre eux répondait aux critères de rémission de la dépression, comparativement à seulement 8% des membres du groupe qui avaient seulement du soutien social. Madame Jacka nous dit que ces résultats ne s'expliquent pas par des changements dans l'activité physique ou le poids corporel, mais sont étroitement liés à l'ampleur du changement du régime alimentaire. Et ceux qui ont adhéré le plus étroitement au programme diététique ont obtenu la plus grande réduction de leurs symptômes. Madame Jacquat continue en nous disant « Il est important de noter que la dépression augmente également le risque de maladies physiques courantes comme l'obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiaques. L'amélioration de l'alimentation sera donc bénéfique contre ces maladies. » L'étude suggère la nouvelle possibilité d'ajouter des diététiciens cliniques aux équipes de soins de santé mentale et de mettre le soutien diététique à la disposition des personnes souffrant de dépression.
Oui, donc, mais faut, des fois, tu peux abuser. Il ne faut pas que ça soit tous les jours. C'est ça la différence.
Tu veux dire pour les aliments non recommandés?
Oui, tu peux aller dans un fast-food occasionnellement. Si tu y vas tous les jours...
Oui.
C'est un peu problématique.
Mais tu vois, ceux qui ont suivi le régime, si je peux dire, de près, ont eu les meilleurs résultats.
Comme dirait la vieille Maxime, c'est toujours la modération a bien meilleur goût.
Et ce régime-là pourrait s'appliquer à tout le monde aussi, parce qu'on on va être juste en meilleure santé si on applique ça, effectivement.
Mmh, exactement. Donc, je vais revenir plus tard dans la deuxième partie avec d'autres articles sur le même sujet.
Donc intéressant, donc le sujet dépression et alimentation, c'est toujours intéressant de s'en occuper parce que c'est quelque chose qu'on fait quand même chaque jour, donc c'est récurrent et ça aide beaucoup. Donc on poursuivra à l'espresso allongé à Folie douce.
Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair.
J'ai le plaisir d'accueillir notre chroniqueur Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Aujourd'hui, on parle d'un jugement, le jugement JM contre l'hôpital Jean Talon. On va d'abord mettre en contexte de quoi il s'agit.
Oui. JM, c'est une personne qui a été hospitalisée et détenue contre son gré à l'hôpital Jean Talon. Et comme beaucoup de gens, on l'a mis au courant de notre existence à Action Autonomie. Il nous a appelé pour qu'on l'aide. Et on lui a dit notamment que les évaluations psychiatriques qu'il allait passer pouvaient servir à le priver de sa liberté pour une plus longue période, pour une période de 30 jours. Donc, on lui a dit, au sens de la loi, une évaluation psychiatrique, c'est un soin et la personne a le droit de consentir à ce soin-là et peut refuser. Puis si elle refuse, l'hôpital doit prendre d'autres recours. Alors, c'est un peu ce qu'il a fait. Il a dit, moi, je vais refuser de faire mon évaluation psychiatrique. Mais au moment de cette évaluation-là, le psychiatre ne s'est pas démonté pour autant et a poursuivi, malgré son refus, l'évaluation, en disant qu'il était méfiant, qu'il ne voulait pas collaborer, qu'il avait un affect émoussé, une pensée pauvre et hermétique et parfois incohérente. Donc, c'est comme ça. C'est intéressant parce que ça nous montre comment les psychiatres perçoivent les gens qui veulent défendre leurs droits. Donc, juste cette partie-là est vraiment très, 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 très instructive sur c'est quoi la culture et la relation qu'il peut y avoir entre un psychiatre et une personne qui est gardée en établissement.
Il faut dire que peut-être d'autres psychiatres auraient accepté, mais dans son cas, bon, apparemment, il ne prenait pas ça au sérieux.
Mais probablement que le psychiatre ne savait même pas qu'il devait obtenir le consentement de la personne avant de procéder à son examen. C'est pour ça qu'il a continué. Toujours est-il qu'ils ont donc leur évaluation psychiatrique malgré le refus de la personne. Et comme c'est le cas dans à peu près 97% des cas où une décision est rendue, la Cour du Québec, la première instance, a accordé à l'hôpital une garde de 21 jours pour cette personne-là. Sauf que ce que cette personne-là a fait de particulier avec son avocat, c'est qu'ils ont amené le jugement en cour d'appel pour dénoncer des errements, des problèmes de droit autour du rendu de cette décision-là. Et c'est ce jugement-là qui est sorti récemment de la cour d'appel, qui vient vraiment apporter beaucoup d'eau au moulin des gens qui, comme nous, veulent défendre les droits des personnes qui sont hospitalisées contre leur gré en santé mentale.
Donc, chez Action Autonomie, avez-vous déjà vu des cas aussi poussés, si on veut? Parce qu'on tu nous parles souvent, tu sais, que les droits sont bafoués pour certaines personnes, mais dans ce cas-là, il y a une demande claire
clair, qui est claire, nette et précise, et il y a comme un refus de l'autre côté. Est-ce que vous avez déjà vu un cas comme ça?
En fait, c'est plutôt rare parce que les gens n'ont pas beaucoup l'énergie pour faire ça. Ils ont des délais très, très courts. Il faut qu'ils soient vraiment déterminés. Il faut qu'ils soient conscients, d'abord, qu'on a abusé de leurs droits, ce qui n'est pas toujours évident. Et deuxièmement, il faut que l'abus de droit soit vraiment manifeste, comme c'était le cas cette fois-ci. Ouais. Donc là, on avait vraiment un cas particulier dans lequel la personne était motivée, dans lequel l'avocat était motivé aussi, parce que souvent les avocats disent « laissez faire, dans le fond, c'est pour votre bien ». Mais dans ce cas-ci, l'avocat lui a dit « non, il y a vraiment un problème, la loi n'est pas respectée, on va amener ça en cour d'appel ».
Et c'est un long processus, mais bravo à cet individu-là, JM, donc qui a pu, malgré les problématiques qu'il pouvait avoir, maintenir, si on veut, la pression, là, puis de essayer de trouver, finalement, d'aller au bout de son idée, du bout de sa demande.
Là. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est le contenu du jugement.
Ouais.
Le jugement, il porte sur plein de choses, mais notamment sur la notion de consentement, sur l'importance d'obtenir le consentement, le fait que JM, il avait le droit de refuser le soin proposé et que l'hôpital devait, dans ce cas-là, aller demander l'autorisation du tribunal pour lui faire son évaluation psychiatrique contre son gré. C'est ce qu'on appelle la garde provisoire. Nous, on sait que les hôpitaux ne demandent à peu près jamais de garde provisoire. Ils profitent de l'ignorance des gens pour leur passer des évaluations psychiatriques sans leur consentement et souvent à leur insu. Les gens ne sont même pas conscients qu'ils subissent une évaluation psychiatrique. Donc, le juge de la cour d'appel, les juges de la cour d'appel ont dit que, dans ce cas-là, l'hôpital aurait dû obtenir une demande aurait dû présenter une requête de garde provisoire pour l'examiner contre son gré et qu'elle ne l'a pas fait. Donc, le traitement qu'elle a fait à cette personne-là était illégal. Et la juge écrit dans son jugement « contraindre une personne à demeurer là où elle ne veut pas et y subir contre son gré une évaluation psychiatrique, c'est porter atteinte à ses droits fondamentaux, à sa liberté et à l'intégrité de sa personne. Les ordonnances de garde en établissement ne sont possibles que lorsque permises par la loi, ce que le juge ou le tribunal ne peut déterminer qu'à la suite d'un examen structuré et rigoureux dans le plus grand respect des droits de cette personne-là. » C'est exactement ce que nous, on prétend aussi, et c'est exactement ce qu'on sait pertinemment qui se fait pas dans les hôpitaux et dans les tribunaux de première instance. C'est pour ça que ce jugement-là est si important.
Plusieurs diront, j'essaie d'un peu de voir, j'imagine en société, les gens vont dire oui, mais s'il n'y a pas d'évaluation, comment on va pouvoir aider la personne à s'en sortir? T'sais, c'est un peu, la personne a le droit de refuser un examen psychiatrique, sauf que s'il n'y a pas d'examen, on ne peut pas savoir qu'est-ce que la personne a.
Donc, oui. Ce qui se passe, c'est que les hôpitaux trouvent ça trop compliqué, que ça prend trop de temps, que ça coûte trop cher de temps d'avocat, alors ils préfèrent y aller un peu par la porte d'en arrière, ne pas dire à la personne qu'ils sont en train de leur passer une évaluation psychiatrique, et surtout de ne pas leur dire à quoi va servir cette évaluation psychiatrique-là si elle est concluante à leur dangerosité, qui reste à démontrer par ailleurs, puis c'est un autre aspect, mais c'est que ça ne sert pas à les soigner, cette évaluation-là, ça sert à les priver de leur liberté.
OK. À les cataloguer aussi, à les étiqueter peut-être voilà. Un peu plus. Ouais.
Exactement. Ouais. Et donc, effectivement, la juge, elle parle aussi de la dangerosité. L'idée de démontrer la dangerosité d'une personne, c'est devenu de plus en plus une espèce de formalité. Il suffit que l'évaluation mentionne le mot « la personne présente un danger » pour que le juge dise « ben voilà, la preuve est faite que la personne présente réellement un danger ». Et la loi, c'est pas ça qu'elle dit. La loi, elle dit que non seulement il doit y avoir des évaluations psychiatriques, mais il faut que le juge lui-même, qui n'est pas un spécialiste en santé mentale, qui n'est pas un médecin, doit être persuadé de la dangerosité. Et la juge ajoute ce danger, et on parle ici d'un péril important. C'est pas n'importe quel danger, là. C'est un danger important.
Ça semble très important, effectivement.
Voilà. Il doit être défini d'une manière spécifique, c'est-à-dire personnalisée à chaque cas et non pas générique, et précise. On ne saurait donc se contenter d'une affirmation générique. Et le risque de sa réalisation doit être élevé. Sans cela, dont le juge doit se persuader et dont il doit s'expliquer dans son jugement, il n'y a pas lieu de prononcer une ordonnance prévue par ces dispositions. Donc, ça met l'accent vraiment sur le caractère exceptionnel de ces jugements-là. Et nous, on sait que c'est devenu des procédures de routine, c'est des jugements qui sont rendus en 4 ou 5 minutes, plus de 3000 fois par année à Montréal.
On constate qu'il y a vraiment une paresse, finalement. Les gens, quoi, est-ce que c'est vraiment par paresse ou c'est vraiment par manque de temps? Est-ce que c'est le système qui est engorgé? Est-ce qu'on veut accélérer les dossiers pour justement les libérer? Mettons, Action Autonomie met ça sur quelle faute? Là,
ça repose beaucoup sur une sorte d'obsession du risque zéro, justement. C'est que les juges ne veulent pas prendre de chance. En droit, on dit qu'il est largement préférable de laisser partir un coupable que de condamner un innocent. Mais dans ce cas-là, c'est le contraire. On se dit, des fois qu'il déciderait d'être violent, moi, comme juge, je ne veux pas avoir ma photo dans le journal comme étant la personne qui a laissé partir quelqu'un de dangereux qui a commis un délit, finalement. Mais ce sont des choses qui se produisent très, très, très rarement. Et donc, le juge ne fait pas son travail de juge, ne juge pas correctement et finalement accède à la demande de l'hôpital sans trop l'examiner. Et il y a justement, on parle de la notion de risque là-dedans. Parce que c'est un fait que si on refuse une garde en établissement, il y a un certain niveau de risque. Et la juge le reconnaît. Elle dit, on peut reconnaître que la libération d'une personne à l'expiration du terme prévu pourrait n'être pas sans risque. Ça se peut qu'il y ait un risque. C'est toutefois un risque que le législateur a sous-pesé, du moins est-il présumé l'avoir fait, lorsqu'il a adopté les dispositions législatives en cause et qu'il ne l'a pas convaincu de légiférer autrement. Ça veut dire que le juge, son travail, sa mission, c'est de faire en sorte que la loi, telle qu'elle a été faite par le législateur, soit appliquée. Et il n'y a pas à se préoccuper de considérations morales ou autres. Il fait du juridique. Un juge, c'est là pour appliquer des lois, pour faire du juridique et non pas pour faire du travail social ou de la compassion ou quoi que ce soit. C'est pas ça l'élément qui doit être pris en compte. C'est est-ce que j'ai devant moi une preuve suffisamment solide qui démontre que cette personne-là présente un réel danger? Sinon, malgré ce que me demande l'hôpital, j'ai la responsabilité comme juge de ne pas accorder cette garde.
Oui. Je sais que vous êtes sur plusieurs fronts et finalement, vos tâches pourraient être... On pourrait vraiment rajouter beaucoup, mais est-ce que vous avez déjà fait une approche auprès du système judiciaire, les juges, ça, pour les sensibiliser? Je sais qu'il y avait un tribunal qui était plus sensibilisé au niveau de la ville de Montréal, entre autres, là, au niveau de la santé mentale, mais est-ce qu'il y a moyen de peut-être sensibiliser? Là?
C'est très difficile parce que dans la société, il y a deux catégories de personnes sur lesquelles on n'a à peu près aucun contrôle. Ce sont les médecins et ce sont les juges. Les juges, ils doivent avoir une forme de sérénité, ils ne doivent pas pouvoir être facilement influencés. Donc, c'est très, très difficile pour nous de contacter directement la magistrature. On passe beaucoup par les avocats parce que c'est le rôle des avocats. Le but de ce pourquoi on veut faire connaître ce jugement-là, c'est que les avocats qui défendent les personnes les défendent correctement et qu'elles évoquent le contenu de ce jugement-là. Et à partir du moment où on l'aura fait, le juge qui est là ne pourra pas faire comme s'il ne l'avait pas entendu et va devoir tenir compte de ce jugement-là.
Parce que ça crée un peu une jurisprudence. C'est un peu un précédent. Donc, ça, au moins, il y a une base pour partir, pour dire bien, ça existe et les droits ont été bafoués, donc il faut qu'on s'en serve.
C'est ça. En droit, il y a deux types de références. Il y a la jurisprudence et il y a la doctrine. La doctrine, c'est des écrits théoriques sur lesquels les juges peuvent s'appuyer à certains moments. Mais la jurisprudence, c'est beaucoup plus fort parce que c'est des jugements qui ont été rendus par leurs collègues dans le passé. Et là, effectivement, on en a un jugement. Il en existe quelques autres aussi, mais celui-là est récent. Celui-là est très, très étoffé. Celui-là fait vraiment le tour de la question et on invite les personnes, notamment à qui cet événement-là pourrait arriver, qui pourrait être gardé contre leur gré en établissement, d'une part à contacter un avocat parce qu'il faut absolument être défendu par un avocat, et de mettre au courant l'avocat de l'existence de ce jugement-là, c'est-à-dire le jugement JM contre l'hôpital Jean Talon du CIUS de l'Est, du Nord de l'île de Montréal, parce qu'il y a vraiment là une source de défense très, 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 très étoffée et que les juges ne peuvent pas ignorer, ne peuvent pas contester, parce que c'est un jugement, c'est de la jurisprudence, justement. Oui. Ce n'est pas que de la doctrine.
Oui, et juste sans décourager les gens, ça a pris combien de temps, tout ce processus-là? En pensant sens aussi que ça a dû être envoyé à la cour d'appel et tout ça. Est-ce que ça a été long?
Ce qui s'est passé, ce qui se passe évidemment dans ces cas-là, une garde en établissement, ça dure généralement entre 21 et 30 jours. Donc, dans le cas particulier de JM, il a été libéré par l'hôpital avant le délai de 21 jours qui avait été accordé par la Cour du Québec, probablement parce que l'hôpital, se rendant bien compte qu'il représentait aucun danger, a dit « on n'aggravera pas notre cas » parce qu'il savait qu'il était déjà rendu en cour d'appel. « On n'aggravera pas notre cas, puis on va le laisser partir plus rapidement. » Ça va peut-être amadouer un peu les juges de la cour d'appel. Mais c'est sûr que même si l'événement lui-même est passé, l'intérêt de ce jugement-là, c'est que cet événement-là va rester dans les annales, va rester dans la jurisprudence et on va pouvoir l'évoquer dans le futur pour défendre d'autres personnes.
C'est une bonne nouvelle. En terminant, Jean-François, les coordonnées pour joindre Action Autonomie, vous êtes toujours ouvert pour de l'information, pour défendre des gens ou en tout cas les aider à se défendre eux-mêmes, vous les accompagner. Comment on peut vous joindre?
Alors, vous pouvez nous joindre au téléphone au 514-525-5060 et vous pouvez aussi consulter notre site Internet au www.actionautonomie.qc.ca.
Merci beaucoup, Jean-François Plouffe. À une prochaine.
Merci à vous.
Au revoir.
Excuse-moi!
C'est une excuse-moi, est une désolée, c'est triste, qui me dit toujours pardon. Je m'excuse encore, c'est con. Excuse-moi!
Excuse-moi?
Une excuse-moi, est qui veut pas déranger et vit en pointiller sa vie sur la pointe des pieds. Une excuse-moi, East, une chose pas, j'hésite, qui dit en rêve, tu me tentes, mais la vie est si méchante. Excuse-moi. Une excuse-moi, East, et aussi roman triste, il faut être réaliste, passe-moi l'arsenic. Excuse-moi. Une excuse-moi, East, qui va pas sur la piste et te regarde désolé quand tu l'invites danser. Une contemplatrice, légèrement affabulatrice, qui dit moi je voudrais, mais c'est triste. Ni jambiste, excuse-moi, excuse-moi. J'ose pas, j'hésite, j'ose pas, mais j'existe. Excuse-moi, excuse-moi. Une excuse-moi, est une vraie emmerdatrice qui dit je sais, je suis chiante. Vraiment très emmerdante, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Pour qu'on me foute la paix, pas trop mouillée, écoute-moi. Une excuse-moi, East, qui dit les autres c'est des problèmes. Les autres c'est que des problèmes. Mais si tu veux, toi je t'aime. Si tu veux, toi je t'aime. Donc si tu me résistes, si tu me résistes, excuse-moi, mais j'insiste, embrasse-moi. Excuse-moi, embrasse-moi, et surtout, surtout, excuse-moi. Une excuse-moi, is légèrement dictatrice. Une excuse-moi, is. La croise, méfie-toi. Une excuse-moi, East. Au début, elle est là, c'est mystère devant toi. Et puis après, elle est chez toi, quoi.
Que vous
soyez au boulot, dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce.
C'est maintenant le moment du bloc espresso allongé, la suite, entamée plus tôt, Pierre Laporte, tantôt. Donc, dépression et alimentation, tu nous as donné des aliments qu'on doit éviter et des aliments qu'on devrait consommer plus, ou en tout cas qu'on devrait consommer pour
Exactement. Aider. Tu disais que c'était bon pour la santé en général, puis c'était bon pour tout le monde.
Pour tout le monde, c'est sûr.
Je suis d'accord avec toi. C'est sûr. Mais je vais vous lire un autre court article que j'ai trouvé sur Internet. Sur le site Psychomédia, il y a un chercheur du nom de James Gangwich qui est chercheur à l'Université Columbia à New York. Et il a dit, il raconte, quand j'étais un gamin, j'étais presque comme un junkie des bonbons, a-t-il rapporté au Time Magazine. Il disait, j'ai remarqué que si je mangeais beaucoup de sucre, je me sentais down le lendemain. Il a arrêté de manger des sucres ajoutés il y a des années, mais est resté curieux de savoir si la malbouffe pouvait rendre les gens déprimés. Avec ses collègues, il a analysé des données concernant environ 70 000 femmes ayant passé l'âge de la ménopause qui ont été suivies pendant 3 ans. Une alimentation dont l'indice glycémique, donc le taux de sucre, était élevé, incluant des sucres ajoutés et des céréales raffinées, comme du pain blanc, du riz blanc, etc., était associé à une plus grande probabilité de dépression. Les sucres ajoutés et non la quantité totale de sucre ou de glucides étaient fortement associés à la dépression. Certains aliments avaient plutôt un effet protecteur à la dépression. Il s'agit des fibres, des grains entiers, des fruits entiers, mais pas les jus, des légumes et du lactose. Ghislaine, on en a parlé tantôt.
Oui, oui.
Ce dernier est un sucre qui provient de produits laitiers et du lait et qui a un indice glycémique. L'étude ne portait pas sur les mécanismes en cause, mais les chercheurs notent que la surconsommation de sucre raffiné et de féculents est un facteur de risque pour l'inflammation et les maladies cardiovasculaires qui ont toutes deux été liées au développement de la dépression. En passant, les sucres raffinés sont des sucres uniquement caloriques et n'apportent aucun autre élément nutritif. On peut dire, moi je dis d'une certaine façon, les sucres raffinés, c'est les sucres artificiels qu'on ajoute.
On dit manger des cochonneries.
mais aussi le sucre lui-même, tu sais, quand tu consommes du sucre, tu as le sucre des fois de canne à sucre qui est moins raffiné, puis je pense qu'il est moins dommageable.
Oui, exactement. Ou le sucre qu'on peut trouver dans une pomme ou dans aussi, une poire, on pourrait appeler ça des sucres naturels, finalement. Ouais. Donc oui, c'est vrai que c'est meilleur. La réponse hormonale visant à abaisser les niveaux de sucre dans le sang pourrait aussi être liée à une fatigue et à des symptômes de dépression. Les sucres qu'on trouve, par exemple, dans les farines raffinées pourraient également entraîner une résistance à l'insuline, laquelle a été liée à des déficits cognitifs similaires à ceux trouvés chez les personnes souffrant de dépression majeure. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si ce lien est présent chez les femmes plus jeunes et chez les hommes, nous dit M. James Gangwich. Des recherches devraient également viser à déterminer si des changements dans l'alimentation présentent un potentiel de traitement pour la dépression. Mais déjà, il peut valoir la peine de s'efforcer d'améliorer l'alimentation, estime le chercheur. Elle peut avoir un grand effet sur l'humeur et le niveau d'énergie.
Je dirais, juste manger comme il faut, c'est déjà un bon début.
Exactement.
Même pas faire une obsession, mais manger correctement.
Ben, juste manger, il y a des gens qui sautent des repas.
Oui,
juste
oui.
d'avoir une certaine structure, c'est déjà bien. Là.
Mais on peut devenir accro à la malbouffe et puis aux aliments qui sont sucrés.
Bien sûr.
Ça devient comme une drogue à un moment donné.
Ouais.
Le sucre, c'est la chose la plus addictive à se débarrasser.
Et c'est un grand fléau. C'est un des plus grands fléaux actuellement. Il y en a partout du sucre.
J'ai un autre article aussi, également sur le site de Psychomédia, qui nous dit « La psychiatrie nutritionnelle est un traitement de l'avenir en santé mentale ». C'est Mme Joyce Cavaille de l'Open University au Royaume-Uni qui a cité plusieurs récentes études sur le sujet. Elle nous dit « Il est connu que des carences en nutriments essentiels contribuent à des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression, le trouble bipolaire, la schizophrénie et le trouble du déficit d'attention avec hyperactivité. Des recherches récentes ont montré que des compléments alimentaires tels que le zinc, le magnésium, les oméga-3 et les vitamines B et D3 D3, pardon, peuvent aider à améliorer l'humeur, soulager l'anxiété et la dépression et améliorer la capacité mentale des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est pas seulement que la dépression.
Il faut faire attention avec les vitamines, ça peut être bon, mais ça peut aussi coûter très, très cher. Il y en a des fois, là, c'est une question de coût pour beaucoup de monde.
Et ça peut rentrer en conflit avec des médicaments, souvent on le dit.
Oui, possiblement, oui. Le magnésium est l'un des minéraux les plus importants pour une santé optimale, mais de nombreuses personnes en ont une carence. Une étude a montré qu'un complément quotidien de citrate de magnésium entraînait une amélioration significative de la dépression et de l'anxiété, indépendamment de la sévérité de la dépression et de l'âge. L'amélioration n'était pas maintenue lorsque les participants cessaient de prendre le supplément. Il y a aussi les acides gras, oméga-3, qui sont un autre élément nutritif essentiel au développement et à la fonction du système nerveux central. Une carence a été associée à une baisse de l'humeur, au déclin cognitif et des difficultés de compréhension. Alors, je m'arrête ici, mais gens qui ont l'Internet, je vous invite à aller voir sur le site Psychomédia.
Oui, et puis on met évidemment le lien sur notre site antenne.qc.ca dans les liens mentionnés à l'émission. Donc, allez-y, vous allez pouvoir trouver ça. Merci Pierre et merci Ghislain.
Et c'est vintage à l'os.
Moi je suis vintage à l'os.
Si t'es vintage à l'os,
t'as joué à Mario Bros.
Et c'est vintage à l'os.
On est vintage à l'os.
Dans le bon vieux temps, ça se passe
de même. Vintage à l'os, c'est pas trop précis. C'est Jean-Bobino, les en voie dégracie. Les années disco, psycho parti. Steinberg, Chris Guy, c'est un état d'esprit. Tu faisais du bac avec une carte de base dans ta roue. C'était Twinking des Willy pis de la race dans ta rue. T'étais dans la gang des tics pis dans la gang des BMX. T'avais des jeux de Maiden, tu lisais Astérix. Le nom des chums, c'était Mélanie ou Ben Rick. Le dernier gadget à mode, c'est un cube Rubik. Quand ça fumait dans les écoles, quand t'avais pas de nip. Quand t'allais opérer, pogner des mini-sites. Si t'avais un support, sa TV comme antenne. Tu recevais 12 cassettes par la poste pour une scène. Y'avait les Nordiques, pis y'avait les expos. Y'avait la O'Keefe, pis l'amour c'est un export. T'attends d'après décembre pour signer cadeau. Quand y'avait un pit de sable à la place des condos. Le Big Will, le Gérard, l'esprit net, le Batman. Gilligan, le Walkman, la vieille série Batman. Si ta mère t'envoie à l'école, si tu passes partout, faisais ton craft dinner devant Fred Caillou. Ça te coûtait 25 cents quand tu prenais le boss. Ça confirme que toi et tout, t'es vintage à l'os.
Et t'es vintage à l'os.
Moi j'suis vintage à l'os.
Et t'es vintage à l'os.
Te jouer à Mario Bros.
Et t'es vintage à l'os.
On est vintage à l'os.
Et toi avec si tu te fais pour changer de boss. Et t'es vintage à l'os.
Moi j'suis vintage à l'os.
Et t'es vintage à l'os.
Si tu viens d'Eric Lindros.
Et t'es vintage à l'os.
Lui est vintage à l'os.
Parce qu'il portait des jeans à l'envers dans ta crisscross.
Jalous, tu vas te souvenir aussi de la STCUM, Berry de Montigny. Mais si t'en souviens pas, t'es vintage et tout. T'as connu avant la Valterminus dans Ribou. Pour toi, c'est le Villéonard, c'est Traboulidon. T'avais un siège banane, des francs sur ton guidon. Capote à cacole, cap, non, c'est qui débrouille. T'aimais pas la tarte au citron, mais t'aimais pop citrouille. TVA, le Canadien, t'es les métropoles. T'as rimène dans une paix à BO, pas l'épaule. Assis dans le salon, tu m'as posé près, tu t'es dose. La poutine dans ce temps-là, c'était rien qu'une frite sauce. Si t'as déjà voté à des référendums. Les meufs de la coupe Stanley, Sucène-Gâteau, Forum. Par belle montagne des hommes, l'aquapark Fleuralie. Le zoo du parc La Fontaine, village de Nathalie. Si tu soupais devant Michel Louvain, que t'allais te coucher avant Michel Jasmin. Pis qu'avec ton big wheel, tu jumpes à d'un boss. Ça prouve que toi et tout, t'es vintage à l'os.
Et t'es vintage à l'os.
Moi j'suis vintage à l'os.
Et t'es vintage à l'os.
T'as joué à Mario Bros.
Et t'es vintage à l'os.
On est vintage à l'os.
Et toi avec si tu te
fais
pour changer de boss. Et t'es vintage à l'os.
Moi j'suis vintage à l'os.
Si t'es vintage à l'os.
Si tu viens d'Eric Lindros.
Et t'es vintage à l'os.
Lui est vintage à l'os.
Parce qu'il a porté des jeans à l'envers dans ta crisscross.
Vieux temps, ça se passe.
C'était payer des frais de retard au club vidéo. Que finalement, ça te coûte le double pour checker Rambo. Ici, en plus, t'avais oublié de le rembobiner. Quand tu regardes ça aujourd'hui, t'es bien content de streamer. T'as connu MSN, puis le téléphone, la cadrale, les floppy disks, les Betamax, puis super écrase. Pour toi, l'épisode 4, ça a toujours été le premier. Ça prouve que t'es vintage, ça sert à rien de le nier. Si t'allais chez Direct Film pour développer tes photos, puis que le dernier des Rockies, c'était celui qu'on drague. Si t'appelles la console, puis que c'est rendu Gatineau, t'es un génie en herbe, là, de morceaux de. Bon, t'as connu l'avant DPS, tu perdais pas sans GPS. T'avais ton carnet d'adresse, puis tu payais en espèces. Dans ce temps-là, secondaire, c'était les exported lights. On n'avait pas d'iPad, mais on avait des light bright. Ça se passait dans le parc ou bien dans la ruelle. Dehors sans arrêt jusqu'à que ta main t'appelle. Aujourd'hui, c'est différent, les jeunes iront qui sortent. Puis c'est là que tu te rends compte que t'es vintage à l'os.
Et t'es vintage à l'os.
Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
En conclusion de ce rendez-vous de Folie douce, on y va avec la nomenclature des chansons Ghislain Malo. On écoutait en début d'émission la chanson « Fille de personne 2 ».
Oui, du Père Lenoir.
On a pu entendre « Les insatisfaits ».
Oui, du groupe français « Holidays ».
En deuxième demi, on a entendu « L'excuse-moi-iste ».
Bien dit, de Adrienne Paul.
Oui, ça prend la diction dans ce nom-là.
Chanson sympathique. Chris.
Et quelque chose d'intéressant et de rigolo qu'on vient d'entendre, donc « Vintage Alos ».
Oui, de Seba et Hoc, bien écrit en passant. Oui,
c'est vraiment drôle, puis ça fait vraiment un tour historique.
Oui,
un peu de...
c'est une bonne chanson, bien écrite.
Oui, effectivement. Merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre.
Oui, merci.
Merci à Pierre à la mise en onde.
Bienvenue.
Ainsi que pour tes blocs espresso et allongés où tu nous as parlé de dépression et alimentation. Donc, des bons aliments justement qu'on doit prendre. Donc, c'est quand même très bien pour la santé. Notre invité en début d'émission, qu'on remercie, Nancy Roy, de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, donc l'AFPAD. Alors, merci beaucoup, Mme Roy, d'avoir été des nôtres. Notre collaborateur, Jean-François Plouffe, d'Action Autonomie, était aussi avec nous en début de deuxième demi. Il nous a parlé d'un jugement de JM contre l'hôpital Jean Talon. Alors, tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.